Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le cerveau des enfants que nous apprennent vraiment les neurosciences.
Rue des Écoles. Louise Touret.
On n'aura jamais autant parlé de neurosciences que cette année. Multiplication des ouvrages de vulgarisation, ouvrages à succès, multiplication des polémiques aussi. Nomination du spécialiste le plus en vue sur la question, Stanislas Dehaene, à la tête du tout nouveau Conseil scientifique de l'éducation nationale. Le sujet est à la mode et les innovations pédagogiques qui s'en inspirent aussi. Mais que découvre-t-on vraiment dans tout ce qui est présenté comme nouveau? Qu'y a-t-il derrière l'émerveillement et les méthodes qui sont présentées comme innovantes et parfois presque magiques? Il nous faut faire le lien peut-être avec l'histoire des pédagogies. Piaget, Freinet, Montessori, pour le comprendre. Une occasion de réfléchir à la manière dont nous considérons les enfants et de méditer sur les attentes des adultes d'aujourd'hui envers eux. Enfin, c'est presque une histoire de l'intelligence, de la construction de ce que nous considérons être l'intelligence et de la place de celle-ci dans le bon développement de l'enfant qu'on devrait faire. Ces questions et bien d'autres seront soulevées dans cette émission. Elles le sont dans le livre et le film de nos invités Olivier Houdet et Stéphanie Briand. Programme de ce Rue des Écoles, également une écrivaine au micro de Sophie Bobert pour notre leçon de choses, c'est Christine Montalbetti. Et cet entretien m'a beaucoup touchée. Christine Montalbetti parle de sa paresse de petite fille, de son caractère contemplatif comme une défense contre le temps contraint de l'enfance. Écoutez-la, c'est en fin d'émission. Et puis l'actualité de l'éducation et de l'émission, ce sera avec vous, Erwin Canard. Bonjour.
Bonjour Louise. Et aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, de Parcoursup, mais aussi de garde à vue de lycéens et d'une réforme explosive qui s'apprête à être lancée, celle de l'organisation territoriale qui pourrait chambouler l'éducation nationale.
Et avec nous aussi dans cette rubrique d'actualité en partenariat avec le magazine L'Étudiant, un invité, Guillaume Ouattara. Bonjour.
Bonjour.
Et vous allez nous expliquer non seulement comment fonctionne l'algorithme de Parcoursup, mais aussi cette nouvelle relation que nous avons avec les algorithmes pour tout ce qui concerne eh bien, notre vie, en particulier l'orientation.
Il peut aussi contrôler nos émotions.
Si vous n'avez pas de force au cerveau, vous n'avez pas de force physique. La méditation m'aide beaucoup.
Tout le monde peut développer ses talents et aptitudes.
Le cerveau grossit, passant de 400 grammes à la naissance à 1 kilo à 1 an.
Si la cognition implique le corps et qu'impliquer le corps rend l'apprentissage plus facile et plus effectif,
souvent, les adultes sont effrayés quand leurs enfants ou leurs élèves peinent à faire quelque chose. Mais quand elle est productive, la difficulté est la clé de l'apprentissage.
Le cortex et le cortex préfrontal sont les régions les plus hautes du cerveau. Et comme les étages supérieurs d'un bâtiment, ils mettent plus de temps à se construire.
C'est une zone dont dépendent ma prise de décision et ma capacité à raisonner.
Pour comprendre les autres, avoir de l'empathie.
95% des enfants volent à la rescousse de quelqu'un qui a fait tomber quelque chose. Ils arrêtent même de jouer pour le faire. Vous pouvez entraîner l'amour altruiste, la résilience.
Voilà, c'est un extrait, c'est la bande-annonce de votre film. Stéphanie Briand, bonjour.
Bonjour Louise.
Ce film s'appelle Le cerveau des enfants. Il est sorti mercredi en salle. Donc vous êtes réalisatrice également journaliste. Et quand je vous ai demandé de vous présenter, vous m'avez dit je travaille sur les thèmes de la libération du potentiel humain. On va voir avec vous ce que ça veut dire. Olivier Houdet, je vous salue également. Bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est un livre, L'école du cerveau. C'est donc bien le mot cerveau qui est mis à l'honneur aujourd'hui dans l'émission, l'école du cerveau sous-titrée de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives. Ce livre est publié chez Mardaga. On va commencer avec vous, Stéphanie Briand. Alors, cette bande-annonce a l'avantage d'être doublée. Elle donne vraiment une bonne idée de ce qu'est votre film. Sont mises à l'honneur les notions d'empathie, de bienveillance dans l'éducation. Moi, ce que j'y ai vu aussi, c'est un grand émerveillement de votre part de voir l'intelligence s'éveiller chez les enfants. Et ça, c'est aussi un émerveillement de parents, d'adultes.
Oui, tout à fait. On est assez bluffé en général par le cerveau de nos enfants et ce qu'ils sont capables de faire et développer. Mais surtout, moi, je crois que nous avons tous des potentiels inouïs et bien souvent gâchés. Donc, c'est en ce sens que j'avais voulu faire ce film pour montrer que nous avions une marge de progression immense, que tous les enfants l'avaient et qu'il y a vraisemblablement des choses à comprendre pour faciliter cette progression et les aider à s'épanouir.
Olivier Houdet, c'est ce qui paraît assez nouveau ou du moins un peu différent du discours actuel, souvent sur l'éducation, sur l'enfant, sur les apprentissages. Il y a comme un vent d'optimisme qui vient avec les neurosciences. Ça pourrait expliquer une partie du succès des ouvrages et des films qui y sont consacrés.
Oui, je crois que ce n'est vraiment que le début du succès. Si on prend un peu de recul depuis nos grands philosophes de l'Antiquité comme Platon, on rêvait de voir le cerveau, l'organe de la pensée. Et il a fallu attendre 2 millénaires, c'est seulement depuis le début du XXIe siècle que les technologies d'imagerie cérébrale, notamment fonctionnelles, celles qui permettent de voir dans une grande caméra votre cerveau qui fonctionne alors qu'il apprend, qu'il commet une erreur, qu'il corrige cette erreur, tester l'effet d'une pédagogie sur le cerveau, cela peut se faire et nous l'avons fait à la Sorbonne, dans mon laboratoire du CNRS, rue des Écoles, Louise, pour la première fois en France, avec des enfants qui sont passés dans l'IRM dans le cadre d'un projet pédagogique avec leurs parents, les professeurs des écoles. Et en effet, il y a autour de cela un grand émerveillement. Le film de Stéphanie Briand est exceptionnel à cet égard. Il relate cet émerveillement et ensuite, il faut aller au-delà de l'émotion, plus loin, approfondir scientifiquement. Et c'est pourquoi, en effet, on écrit, tout en étant aussi des scientifiques, nous écrivons nos articles en anglais dans des revues internationales, mais c'est très important aujourd'hui de diffuser au grand public. Et là, j'ai sous les yeux tant le livre que vous avez cité, L'école du cerveau, qui est adressé aux parents et aux professeurs des écoles. Tous peuvent s'en emparer et avoir eux-mêmes des idées. Je pense qu'il ne faut surtout pas leur imposer les neurosciences. Et par ailleurs, on a écrit chez Nathan un livre questions-réponses, Mon cerveau pour l'enfant.
On a justement un extrait du film sur ce sujet et on va poser la question à Stéphanie Briand de la pédagogie qu'on peut faire des neurosciences auprès des enfants.
Let's talk about what you did at school today and what part of the brain are we learning? Okay, let's see. Do you remember what part of the brain we're learning?
Amygdala.
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 Do you remember what the amygdala?
Like
what? What the amygdala does for us?
Sorry.
What does it control?
Feelings.
It controls your feelings, right? So tell me the name of one feeling.
Les cerveaux s'affichent partout sur les murs de l'école.
Voilà, dans cette école. Aux États-Unis, donc les élèves parlent anglais. On a peut-être pu distinguer un mot, même si on n'est pas bilingue. C'est amygdala. On parle des amygdales du cerveau. Décrivez-nous cette scène, Stéphanie Briand. Quel âge
ont
les enfants ?
Ce sont des enfants de 3 ans. Donc à qui l'on enseigne le fonctionnement de leur cerveau, donc l'amygdale, le cortex préfrontal, ils connaissent absolument tous les termes et ils construisent des petits casques en forme de cerveau qu'ils se mettent sur la tête régulièrement pour penser qu'ils ont un cerveau. Sur les murs, en effet, on voit qu'à l'intérieur de leur tête se trouve leur cerveau et ils expliquent quel est leur projet de cerveau pour l'année. Donc certains disent, bon, ben moi j'ai l'intention de muscler entre guillemets mon cortex préfrontal parce qu'il faut que j'arrive à prendre des décisions plus en accord avec ce que je ressens foncièrement. Enfin, c'est très amusant de voir leur grande maîtrise du cerveau, leur grande connaissance et à partir du moment où ils comprennent ce qui se passe biologiquement, ils sont beaucoup moins démunis. Et puis les parents de cette école aussi ont des cours de cerveau car ça se prolonge à la maison, donc ils viennent, on leur enseigne également le fonctionnement du cerveau de l'enfant et par conséquent le leur aussi évidemment et comment les aider, les accompagner avec cette connaissance.
Alors, il y a toute une dimension critique évidemment qu'on va explorer, mais cette connaissance du fonctionnement cérébral, on peut certes l'enseigner aux enfants, mais ce qu'on connaît de la formation des enseignants, et là on revient aux enseignants français aujourd'hui, c'est que aujourd'hui le ministre dit voilà, on veut accentuer les fondamentaux, c'est lire, écrire, compter. On sait que on a déjà du mal à mettre en avant l'enseignement même de ce que c'est la pédagogie comme étant aussi importante que l'enseignement des disciplines, parfois, pas toujours, dans les écoles de formation des professeurs. Est-ce que c'est par là qu'il faudrait commencer, Olivier Houdet ?
Oui, absolument. Et là, on n'en est qu'au tout début. Il y a un travail énorme qui reste à faire. Et en même temps, il ne faut pas opposer la modernité à la tradition pédagogique. C'est pourquoi mon livre a pour sous-titre « De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives ». Je monte dans ce livre...
Je vous arrête parce que la tradition pédagogique, ouais. Il y a des traditions pédagogiques et pas une seule. Vous faites référence à certains pédagogues.
Oui, déjà, trois sont cités. Et dans le livre, vous avez vu qu'il y en a beaucoup d'autres.
Hein. Oui.
On ne pouvait pas tous les mettre sur le titre. Mais c'est déjà bien de raccrocher ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle, les pédagogies nouvelles, aux neurosciences tout à fait modernes. Et moi, je me permets de le faire parce que je suis instituteur de formation, j'ai été instituteur Freinet, et aujourd'hui, neuroscientifique explore cela chez l'enfant. Donc, il ne faut pas opposer. Par ailleurs, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense qu'il faut être assez critique et il faut parvenir à donner aux professeurs et aux parents et aux professeurs dès leur formation initiale dans les SP toutes les connaissances actuelles de sciences cognitives sur le cerveau. Tout comme dans un cours de médecine pour nos futurs médecins, généralistes ou spécialistes, on leur parle évidemment des organes du corps. Ce serait inacceptable, je dirais aujourd'hui, de ne pas les informer de l'organe de l'apprentissage et de la pensée. Mais il faut immédiatement dire que ce cerveau est dans un corps, ressent des émotions, dans l'espace, dans un contexte social et culturel, et qu'il ne faut pas imaginer un cerveau dans un bocal, dans un laboratoire. Donc, il faut partager ces connaissances et que les professeurs, tel un médecin, d'ici quelques années, en fassent un usage intuitif et scientifique dans le cadre de leur liberté pédagogique à l'école. C'est différent que de leur imposer, vous voyez.
Il y a plein de mots-clés dans ce que vous dites. Hein. Liberté pédagogique, évidemment, ça ne laisse pas les enseignants insensibles. Vous dites contexte social... Oui. Et culturel. J'ai pensé, Stéphanie Briand, en regardant votre film, à un livre qui a eu un immense succès en France, Les lois naturelles de l'enfant. C'était une professeure des écoles de maternelle, Céline Alvarez, qui l'avait publié. Naturel, alors on oppose la nature, enfin je ne sais pas si on l'oppose, mais on la met en avant comme quelque chose qu'on peut essentialiser. Le cerveau des enfants, il est fait comme ça au départ. On sait aussi pourtant que les différences sociales sont aujourd'hui assez prédictives en termes de réussite scolaire, de réussite dans les apprentissages. Est-ce que c'est une dimension...
Mais qu'est-ce qu'on entend par social ? Parce que si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui me fait bondir, c'est quand on dit que les enfants pauvres ont des cerveaux pauvres. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait mon film. Parce que ce n'est pas la pauvreté le problème. Le problème, c'est la pauvreté des relations. C'est parfois des climats de violence. Donc, il ne faut pas faire des associations non plus qui ne sont pas juste des raccourcis. Donc, moi, je suis un peu gênée aux entournures par cela. En effet, il y a des caractéristiques sociales qui vont avoir un impact, mais encore faut-il déterminer ce qui est véritablement important. Et faire aussi les bons diagnostics, parce que quand on comprend mieux le fonctionnement du cerveau, on parlait des apprentissages et des professeurs. Par exemple, dans le film, il y a un neuroscientifique qui était dyslexique et qui a mis en place un programme de mathématiques uniquement basé sur le visuel. Et j'ai eu l'expérience personnellement avec mon fils qui, l'année dernière, avait ce programme visuel mathématique. Et cette année, il n'avait plus ce programme. Et un jour, sa maîtresse me dit « c'est plus compliqué pour Milan en mathématiques ». J'étais très étonnée parce que il se trouve que l'année précédente, les mathématiques, c'était vraiment son point fort. Alors j'ai regardé un petit peu. Et en fait, le problème, ce n'était pas les mathématiques, c'était les énoncés. Tellement complexes que ne serait-ce que pour comprendre l'énoncé déjà, vous mettiez un temps infini, donc vous n'aviez plus le temps véritablement de remplir la tâche. Et de surcroît, quand on fait aussi des mathématiques de cette façon et qu'on n'a pas de retour sur l'erreur, on a du mal à mieux comprendre. Donc quand on fait les bons diagnostics en comprenant mieux le cerveau, c'est plus facile de venir en aide aux élèves et de ne pas catégoriser en disant « cet élève-là, il est mauvais en maths ». C'est peut-être pas les maths le problème.
Pour dépasser aussi ou comprendre ce qui freine la réussite des élèves de certains milieux, parce que ça c'est la réalité statistique de l'école française. En quoi les neurosciences peuvent nous aider, Olivier Houdet ? Je vous pose cette question également parce qu'on sait que la controverse telle qu'elle s'illustre en France, elle se fait aussi entre des sociologues et des neuroscientifiques. Il y a eu des pages dans le journal Le Monde sur la question et puis évidemment, on en a parlé dans Rue des Écoles.
Oui, alors si vous voulez, moi mon livre, je l'ai écrit pour briser cette opposition. Et je dis d'ailleurs à la fin du livre que c'est un manifeste contre cette opposition entre nature et culture dans le domaine de l'école et des neurosciences. Et en fait, mon idée, si vous voulez, ce manifeste, c'est un slogan qui consiste à vous dire que, d'abord, il faut dénoncer la réduction, la caricature que l'on pourrait faire aujourd'hui de la neuropédagogie ou de la neuroéducation soit en attendant d'elle ce qu'elle ne veut pas faire, c'est-à-dire tout réinventer, soit en voulant faire croire qu'il y a dans l'école, d'un côté, le monde de la culture, l'histoire des idées, les sciences de l'éducation classique, d'où le titre de mon livre, le sous-titre, les pratiques intuitives et insondables de la classe, les grands pédagogues, et de l'autre côté, il y aurait la nature, le scientisme et le réductionnisme. On peut faire autrement. Je suis d'accord que certaines positions actuelles entraînent cette opposition. Et moi, je veux qu'on prenne du recul par rapport à cela, et je pense que cette vision est fausse, elle n'est pas dans l'intérêt des enfants, et je finis mon manifeste en disant les sciences, les neurosciences et les sciences cognitives peuvent et doivent, on en reparlera peut-être tout à l'heure, susciter une recherche participative avec les professeurs, avec le monde de l'éducation, sans qu'il s'agisse de scientisme. Et ça, c'est mon manifeste. Je pense que vous l'avez perçu, et c'est pourquoi vous m'invitez dans votre émission.
Et cette accusation de scientisme, c'est vrai qu'elle est, elle circule à l'endroit des neurosciences et de certaines politiques aujourd'hui dans l'éducation nationale. Est-ce qu'on n'oublie pas, en mettant en avant des solutions qui seraient univoques, des aspects un peu plus complexes de
la
relation,
lecture, par exemple.
Voilà. Ben, arrêtons-nous tout de suite sur la lecture, puisque le ministre a proposé lui-même que la méthode syllabique soit appliquée, et d'une certaine façon, en publiant un guide, un vade-mecum pour les enseignants assez précis. Olivier Houdet, est-ce que vous pensez que ça va dans le sens des connaissances qu'on a sur le sujet aujourd'hui ?
Alors, on a, avec mon laboratoire, on a publié déjà en 2010, donc les données sont accessibles, une méta-analyse d'exploration du cerveau de plus de 800 enfants d'un grand nombre de pays différents, alors qu'ils réalisaient des tâches de lecture. Cette analyse a été publiée dans une revue américaine qui s'appelle Developmental Science, mais l'image du réseau du cerveau des enfants, elle est évidemment accessible quelle que soit la langue, et vous voyez un très large réseau de l'hémisphère gauche qui inclut bien sûr la région très précise du décodage fin, du déchiffrage qui nécessite une correspondance graphophonologique entre les formes des lettres, des mots et des sons, mais il y a un réseau beaucoup plus large qui implique le sens, la compréhension, y compris la réflexion par rapport au texte. Et pour que ce décodage, et là, sur ce point-là, le ministre a raison, il faut revenir à une part de béaba de décodage, mais surtout pas uniquement que cela.
Revenir
le cerveau,
ou rester. Hein,
parce ou rester, voilà, parce que beaucoup de professeurs appliquent des méthodes mixtes, et nous le savons. Donc, moi, ce que je voudrais dire pour cet exemple de la lecture, c'est que tout le débat se focalise sur ce sujet. Et donc, les profs sont un peu déstabilisés à l'égard des neurosciences, se disent quelquefois, les neurosciences, donc la science qui vient d'en haut, nous prescrit d'appliquer une méthode que l'on applique déjà et que l'on est parvenu à appliquer de façon, je dirais, naturelle pour le coup, et ne nous apprend finalement pas grand-chose de nouveau. Et là, il y a un vrai problème actuellement en France, parce que les neurosciences ont énormément de choses à nous apporter. Comme on en discutera tout à l'heure par rapport à mon livre, sur le raisonnement, par exemple. On parle très peu du raisonnement. Qu'est-ce qui se passe quand le cortex préfrontal doit précisément raisonner, orchestrer ses émotions, prendre des décisions? Or, un enfant en classe, en permanence, il doit prendre des décisions pour répondre, comprendre la logique de l'erreur. Je sais que vous allez parler d'algorithmes, mais il y en a aussi dans le cerveau. Il y a des algorithmes qui sont les règles du programme, par exemple.
On va y arriver.
Il y a aussi des automatismes. Donc, je veux dire en un mot qu'il y a plein de choses merveilleuses et très fines à découvrir par les neurosciences que les profs ne connaissent pas encore, qui les intéresseront, et je le sais puisqu'on travaille déjà avec eux, et sortons des polémiques des méthodes, puisque finalement les neurosciences c'est beaucoup mieux que des méthodes, sachant que le cerveau est multiple, divers, qu'il n'y a pas une méthode et un cerveau, il y a la place pour plus de créativité grâce aux neurosciences.
Alors, sortir des polémiques dans l'éducation, c'est peut-être un vœu pieux, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Stéphanie Briand, sur l'aspect un peu laboratoire qui est montré dans votre film, certaines classes où on va vraiment expérimenter des choses, on sait que ça peut parfois faire peur et que dans l'éducation nationale, on a pas mal de difficultés à imaginer que ça pourrait être appliqué. Elles sont assez particulières, les écoles auxquelles vous vous intéressez, les classes.
Écoutez, ce sont des laboratoires très humains. Parce que moi, vraiment, ce qui m'intéresse avec les neurosciences, c'est l'aspect humain et mieux comprendre l'humain. Je me suis passionnée pour la neurobiologie interpersonnelle. Et ces laboratoires, on ne met pas les enfants dans des scanners. On les suit au fil de l'année. Et le chercheur, il fait partie de l'école. Tout le monde le connaît, tout le monde s'est identifié, tout le monde comprend et participe à sa recherche. Donc ils font des observations aussi en voyant les résultats comportementaux des enfants sur la façon qu'ils ont de comprendre les leçons qui leur sont enseignées par des biais alternatifs et qui sont engendré par une connaissance de la neuroscience et l'envie d'expérimenter en se disant comment on peut enseigner à des élèves différemment pour permettre une compréhension peut-être plus profonde et plus basée sur le jeu. Enfin, dans le film, en effet, il y a toute une partie qui est présentée là-dessus avec une façon d'apprendre les sciences plutôt originale, mais qui, en effet, moi je l'ai constaté par moi-même en allant voir les élèves. Et quand les élèves sont tellement empathiques, concernés par le sujet de science qu'ils ont découvert, ils comprennent si bien, ils peuvent vous le restituer parfaitement. Parce qu'il y a plusieurs degrés dans l'apprentissage. Il y a le moment où vous comprenez l'image, vous l'avez en tête, ensuite il y a le niveau 2 où vous avez parfaitement compris, vous savez réaliser, et ensuite le niveau 3 où vous savez expliquer. Tous les enfants que j'ai rencontrés après ces classes-là, ils étaient au niveau 3, au niveau « je peux être professeur ». Puis si je peux dire un mot aussi sur la lecture justement, parce que ce qui est important, c'est la relation. Donc peut-être qu'aussi une des clés à donner sur la lecture, c'est que si les parents et les enfants lisent ensemble, si dans l'entourage la lecture est un moment important, dans le cerveau aussi c'est capital ça, de lui donner une valeur de connexion. Et je pense qu'on a tendance à oublier cet aspect-là. Mais pour moi, l'importance des relations est cruciale dans le bon développement du cerveau de l'enfant.
Un aspect qu'on n'oublie pas du tout si on a lu de la sociologie scolaire, puisque ce qu'on voit, c'est que les bons lecteurs jeunes, c'est pas seulement qu'ils viennent de milieux favorisés, c'est parce que dans ces milieux-là, on leur lit des histoires depuis le berceau le plus souvent. Ça peut leur donner évidemment un avantage au moment d'apprendre à lire. Stéphanie Briand, vous le faites tout le temps quand vous parlez. La relation entre apprentissage et émotion. Cette relation, elle n'a aucune évidence, en fait, dans le système scolaire traditionnel français. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite par les professionnels, les parents ou les enfants, mais institutionnellement, évidemment, ce n'est pas dit comme ça. Ça paraît déjà assez américain, nord-américain, dans l'approche. Est-ce que c'est vraiment culturel aussi pour vous ?
Je ne sais pas si c'est culturel, en tout cas les Américains sont très intéressés par toutes les questions de ce qu'ils appellent self-help, c'est ce qu'on présente ici comme du développement personnel, donc ils sont sensibles à cela, mais c'est simple, si vous êtes bouleversé par une nouvelle, est-ce que vous avez la capacité de vous concentrer sur quelque chose ? Non. Donc c'est du béaba, c'est même intuitif, on sait qu'un enfant qui en effet a un déferlement émotionnel, comment peut-il apprendre ? C'est impossible. Donc c'est évidemment très important à prendre en compte. Et en plus, l'amygdale, c'est vraiment le premier filtre que nous avons de toutes les informations que nous recevons du monde extérieur. Donc l'amygdale, les émotions sont centralisées là. Donc tout passe par l'émotion dans un premier temps. Donc...
Olivier Houdet, sur ce lien entre les émotions et finalement le milieu dans lequel on baigne, qui est aussi un milieu affectif en tant qu'apprenant, en tant qu'enfant, en tant qu'élève, pour le dire très simplement, et la capacité à raisonner, puis aussi à se mettre au travail. On peut parler de travail scolaire
absolument.
Aussi.
Vous avez tout à fait raison sur la relation, l'émotion, et c'est là qu'intervient le corps. C'est-à-dire vos émotions, elles sont d'abord ressenties de façon corporelle. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'opposition entre le cerveau de l'enfant et son corps. Dans le cerveau, il y a une représentation complète du corps. Et donc toutes les émotions qui, par la colonne vertébrale, le tronc cérébral, arrivent dans notre cortex somatosensoriel, c'est-à-dire la représentation de notre corps dans le cerveau, comportent tout. Et aussi les représentations de l'autre, les interactions avec l'autre. Et cette région, où c'est tout un système qu'on appelle le système limbique émotionnel dans le cerveau, qui inclut l'amygdale et d'autres régions, ce système limbique émotionnel, donc le cerveau émotionnel qui est au cœur du cortex, est directement relié par des connexions directes avec le cortex préfrontal dont on parlait tout à l'heure, celui des apprentissages, du raisonnement et de la prise de décision. Donc en effet, toutes nos émotions, par les connexions et par la chimie du cerveau, influent directement sur l'intelligence et l'apprentissage. Je voudrais revenir une seconde sur la recherche participative que vous évoquiez. Nous avons lancé avec le grand éditeur scolaire, Léa, qui existe depuis 130 ans, dit souvent les ministres de l'éducation se succèdent, et Léa et Nathan demeurent, pardon, l'éditeur Nathan. Eh bien, Léa, c'est l'école d'aujourd'hui. C'est une plateforme numérique participative avec laquelle nous avons lancé en septembre une grande expérimentation. Il y a des milliers de classes dans toute la francophonie donc sur 3 continents, en fait, et les professeurs sont informés des découvertes que l'on fait sur le cerveau. Et en effet, on ne refait pas une IRM avec tous les enfants. Néanmoins, pour avoir de la science, il a fallu en avoir fait un jour avec eux au laboratoire. Tout comme en médecine, on a dû explorer les organes pour qu'ils servent à tous les médecins du monde, avec tous les patients du monde. Eh bien, ça marche formidablement bien. Les profs interagissent par un forum de discussion, téléchargent des fiches scientifiques sur les découvertes que l'on fait au labo et déclinent dans leur pratique pédagogique à une expérimentation scientifique. Il faut un groupe expérimental, un groupe contrôle, un pré-test, un post-test, et surtout, ils essayent de voir si cette connaissance qu'on apporte aux profs et aux enfants du cerveau aide dans d'autres domaines que ceux sur lesquels on a travaillé, ce qu'on appelle le transfert en pédagogie, et autant pour des tâches cognitives que sociales et émotionnelles. Donc je pense que les profs peuvent aujourd'hui participer à longue distance, parce que cette recherche, en effet, avec des professeurs qui peuvent être dans une petite école en montagne en Haute-Savoie, au cœur de Strasbourg, à Marseille, il y a des écoles en Suisse, en Belgique, il y en a au Canada, il y en a même dans le Pacifique. Donc il y a le numérique peut aussi nous permettre aujourd'hui à longue distance de faire de la recherche participative, et on sort un peu de nos débats et polémiques franco-françaises aussi, en montrant qu'on peut intéresser partout dans la francophonie. Vous l'avez fait en milieu anglophone, on peut le faire en milieu anglophone, mais avec des Facebook pédagogiques, si vous voulez, mais plus vertueux que Facebook.
Mais on voit que c'est une question assez globale aujourd'hui, puisque ces découvertes des neurosciences sont assez récentes, mais accessibles partout. Olivier Houdet, on sait aussi que les enseignants expérimentateurs, ceux qui sont investis de manière tout à fait particulière dans leur classe, bon, enregistrent en général une bonne réussite du fait de ce surinvestissement et de ce travail parfois supplémentaire.
Ce qui était le cas de Céline Alvarez que vous avez cité. Il y a toujours un effet maître ou maîtresse qui fait que voilà, ceux qui sont plus désireux d'innovation obtiennent de meilleurs résultats.
Et le cas aussi de plein d'enseignants traditionnels.
Vous avez raison, mais c'est une façon d'en amener beaucoup plus à innover parce qu'il y a là quelque chose de nouveau.
Stéphanie Briand, dans votre film, on voit des enfants en classe et c'est toujours un plaisir que de voir des enfants apprendre, des enfants réfléchir, de filmer la relation pédagogique. Alors, c'est vrai que ce sujet des neurosciences, je l'ai dit, il est très à la mode, ça fonctionne très bien, mais il y a aussi quelque chose qui marche, entre guillemets, très bien quand on parle d'éducation en France, c'est la notion de travail, de rigueur, d'effort. L'idée que l'école, on n'est pas là pour s'amuser et c'est du sérieux et c'est un endroit où on travaille.
C'est drôle parce que donc pour vous, travail et effort, ça s'oppose à plaisir.
En France, c'est souvent présenté comme ça et j'ai par exemple des réactions d'auditeurs qui disent « Oui, vous dites apprendre en s'amusant, mais alors où est le travail ?» Alors en France, oui, dans des représentations qui sont communes. Alors j'allais te dire qu'ici, dans Rue des Écoles, je ne parle pas de ma propre opinion sur l'école, mais c'est bien vous qui devez me répondre, Stéphanie Briand.
Non, mais je soulignais simplement. Mais par exemple, moi j'adore mon métier et je fais beaucoup d'efforts, je passe beaucoup de temps à travailler, mais je le fais avec une grande fluidité. Je pense que tous les patients se reconnaissent là-dedans. Donc, pour moi, c'est pas parce que on prend plaisir que ça va à l'encontre de travailler, se développer et progresser. Et on a nécessairement besoin de ça. C'est la motivation, tout simplement. Vous n'allez pas progresser si vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Donc, je ne vois pas l'aspect dichotomique. Ça me semble être quelque chose probablement à rétablir. Et je pense que, justement, si on s'en tient à la façon dont le cerveau apprend, il va avoir du mal à capturer quelque chose qui ne l'intéresse pas. Donc, pour intéresser, il faut peut-être parfois passer par des chemins qui ne semblent pas évidents pour certaines personnes.
Olivier Houdet, est-ce que la manière dont on raisonne en France, est-ce que la manière dont le débat autour de l'éducation est structuré constitue aussi un frein parfois à l'innovation ou pédagogique pour laquelle vous militez, vous, par exemple?
Oui, certainement, parce que vous évoquiez tout à l'heure l'opposition, par exemple, entre neurosciences et sociologie. Mais dans la réalité de nos laboratoires, elle n'existe pas, parce qu'on travaille avec des sociologues, on a une caractérisation extrêmement précise du milieu socio-économique. Le nombre de livres à la maison, par exemple, rentre tout à fait dans nos modèles d'analyse de ce qui se passe dans le cerveau des enfants. Donc, vous voyez, vous dites les profs, parfois, et vous avez raison, hein, sont choqués parce qu'on leur prescrit de faire avec les neurosciences des choses qu'ils font déjà. Eh bien, de la même façon, le grand public, voire les journalistes curieux et critiques, nous suggèrent de faire des choses qu'on fait déjà dans les laboratoires de recherche. Par exemple, le lien entre sociologie, cerveau et psychologie. Moi-même, je suis d'abord psychologue. Donc oui, en effet, la question de l'effort que vous évoquiez est très importante, mais au cœur du cerveau, de ce système limbique que j'évoquais, il y a un circuit qu'on appelle le circuit neuronal de la récompense. Récompense, pas seulement au sens d'un bon point ou d'un bonbon, réussir un projet pédagogique, être capable d'avoir pu construire un robot et le programmer, par exemple, avec du codage et des algorithmes. S'il y a une récompense, c'est-à-dire que le cerveau est satisfait de son effort et a appris quelque chose, à ce moment-là, l'effort, qui en effet est important, notamment pour le cortex préfrontal, l'effort cognitif, a une valeur émotionnelle et une valeur avec un but social qui peut aussi être coopératif. Plusieurs enfants qui font un effort pour réussir un même projet. Alors vous disiez, l'émotion est plus au cœur de l'école américaine. Quand même, Montessori n'était pas américaine, Freinet non plus.
Non, des écoles filmées par Stéphanie Briand.
Oui. Donc on réduit. Mais il y a aussi beaucoup de pédagogies européennes qui ont plaidé et qu'il faut remettre en lien avec le cerveau aujourd'hui sur le rôle de l'effort dans le plaisir.
Et Maria Montessori, c'était le jeu. Toute une histoire de l'école nouvelle. On a parlé de documentaires, on va remettre les liens qui y sont consacrés.
Le concept, c'est le jeu.
Stéphanie Briand, vous devez nous quitter dans un tout petit instant. Pour vous, l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? Comment ça pourrait se définir, l'intelligence des enfants ?
Pour moi, l'intelligence, c'est une potentialité. Donc, je ne la définirai pas.
Et on va justement parler de l'histoire de l'intelligence, de la notion d'intelligence, tout de suite après les actualités avec Olivier Houdet qui reste avec nous. Une page d'actualité dans laquelle nous allons beaucoup parler de Parcoursup. Évidemment, l'orientation post-bac, c'était le grand sujet cette semaine. Mais nous avons aussi choisi de nous arrêter sur une actualité en marge de Parcoursup, les manifestations qui ont abouti à ce que des lycéens soient mis en garde à vue cette semaine à Paris. Erwin Canard.
C'est l'histoire de Cédric, de Margot, de Lucie ou encore de Paul. Ils ont 15, 16 ou 17 ans, ce sont 4 lycéens parisiens. Et mardi 22 mai, ils participent à la manifestation pour la défense de la fonction publique et dans leur cas aussi donc contre la sélection à l'université. Il est 18h, place de la Nation à Paris, quand le cortège se disperse et une centaine de personnes, dont nos 4 lycéens, décident de tenir une assemblée générale au lycée Arago qui se trouve à proximité. Mais ça ne plaît pas à la proviseure du lycée, qui constate des dégradations et en appelle aux forces de l'ordre. Et c'est là que la situation dégénère, follement, tristement.
Et quelle est la suite donc pour Margot, Lucie, Paul, Cédric et une centaine d'autres jeunes qui sont interpellés ?
Alors c'est un cauchemar qui commence, parmi eux 40 mineurs, parmi cette centaine de jeunes. Un cauchemar aussi pour leurs parents, restés pour certains parfois des dizaines d'heures sans nouvelles de leurs enfants.
C'est raconté dans un article par exemple du Monde qui a apparu vendredi. On a tous les détails de ce que vous nous dites, Erwin.
La garde à vue de 24 heures sera prolongée pour la majorité.
À 48 heures et parfois même un jour de plus. Alors il faut évidemment rappeler qu'il ne s'agit pas de dire que les dégradations sont à minorer. Ce n'est évidemment pas du tout le cas. On peut rappeler qu'il y a eu des faits de violence et même d'agression de personnel de direction l'année passée dans des établissements. Des faits graves qui expliquent peut-être aussi ce climat de tension. Mais pour revenir aux jeunes dont nous parlons, cette semaine, ils ont aussi donc été convoqués au tribunal.
Oui, il y a 27 mineurs qui ont été déférés, 14 vont être présentés à un juge des enfants et 13 à un magistrat du parquet pour un rappel à la loi. Tous les autres, la majorité donc, sont eux sortis de garde à vue sans poursuite, preuve que les charges étaient relativement faibles. C'est pour cela que des parents et des jeunes se sont dirigés devant le palais de justice jeudi 24 mai pour protester. Ils ont dénoncé des arrestations politiques disproportionnées et cette volonté de dissuader les lycéens de manifester. La Fédération de parents d'élèves, la FCPE, a publié un communiqué appelant à la vigilance quant au respect du droit de grève et de manifester. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a lui déclaré que lorsqu'il y a des actes violents, les forces de police font respecter la loi. Plusieurs syndicats enseignants, le SNES, le SGEN, CFDT et Sud notamment, ont déploré que le recours aux forces de l'ordre soit systématique et disproportionné et ont interpellé le recteur de Paris en lui demandant une réaction forte.
Et voilà, sujet tout à fait différent, que le ministère de l'Éducation se lance dans une toute nouvelle, grande, grosse réforme, Erwin Canard.
Oui, et attention, ne vous fiez pas aux apparences très techniques du sujet. C'est une réforme qui pourrait bien être explosive. Il s'agit de l'organisation territoriale et de la gouvernance académique. Alors revenons un peu en arrière. En 2015, les 22 régions françaises sont remplacées par 13 nouvelles. À l'époque, le ministère de l'Éducation nationale publie un décret pour déroger à la règle. Il veut conserver son organisation territoriale faite de 30 rectorats académiques et non pas la bouleverser en collant aux nouvelles régions. Un changement toutefois, 17 régions académiques ont été créées, qui regroupent plusieurs académies, avec à leur tête un super recteur, qui est à la fois recteur d'une académie et recteur de région académique.
Mais cette situation n'a pas l'air de convenir à Jean-Michel Blanquer, qui la qualifie d'hybride et d'intermédiaire. Et c'est là que des conclusions vont être rendues et que le rapport pourrait, Erwin, tout bouleverser.
Oui, car donc Jean-Michel Blanquer a commandé un rapport pour faire évoluer cette situation. Et la proposition de ce dernier est claire, il faut fusionner les rectorats afin de se caler sur le découpage des 13 régions. Un round de négociations s'est ouvert avec les syndicats qui ont pour la plupart protesté contre ce projet. Une pétition intersyndicale a même été lancée. Ils craignent des conséquences en termes de présence sur les territoires, de gestion des ressources humaines, puis par ricochet des problématiques autour, par exemple, de l'affectation des enseignants ou des concours.
Et demain encore, lundi, nous aurons des annonces au ministère de l'Éducation nationale.
Oui, Jean-Michel Blanquer annoncera sa réforme de la voie professionnelle. Le ministre devrait proposer notamment une spécialisation plus progressive des parcours, avec par exemple un choix de famille de métiers en seconde professionnelle plutôt qu'un métier précis.
Plusieurs métiers seront présentés au ministère de l'Éducation. Ça devrait donner de belles images pour les journaux télévisés. Tailleur de pierre, tapisserie d'ameublement, chaudronnerie, métier du cuir et métier de la mode au ministère, Erwin.
Oui, une réforme donc au moment où le ministère de l'Éducation nationale souhaite renforcer l'orientation en lycée pro. Une note de la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, incite en effet les équipes éducatives à encourager les élèves à poursuivre dans la voie professionnelle, à voir dans les années à venir si cette volonté sera suivie d'effet.
Et oui, car ça fait des années qu'on en parle, mais cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne pour changer de regard sur la voie professionnelle. Et puis, le sujet de la semaine, évidemment, Erwin Ganard, c'est Parcoursup. Parcoursup qui est lancé, dont on a eu les premiers résultats, eh bien, mardi, le 22.
Et ça se passe pour le moment plus ou moins comme le gouvernement l'avait prévu, souhaité et surtout annoncé. Un peu plus de 400 000 lycéens ont eu au moins une réponse positive. Près de 60 000 ont accepté d'ailleurs dès mardi soir une proposition. Mais près de 400 000 également étaient en attente au soir du 22 mai et 29 000 n'avaient eux reçu que des réponses négatives. Ces derniers vont être contactés par la commission d'accès à l'enseignement supérieur qui devrait leur faire de nouvelles propositions d'orientation.
Et quelques jours après le lancement, où en est-on ?
Alors les ministres ont assuré le service après-vente avec ce mot d'ordre, avec le jeu des désistements, la situation va évoluer et rapidement. Sur l'outil numérique mis en place justement pour observer cette évolution, il y avait vendredi plus de 100 000 candidats qui avaient accepté une place. En revanche, plus de 330 000 candidats n'avaient pas encore reçu de proposition ou étaient en attente de place. Les lycéens, notamment sur les réseaux sociaux, font beaucoup remonter ce sentiment étrange d'avoir l'impression de dépendre d'une machine, d'autant que des bugs mardi soir ont donné parfois un côté absurde au système. Certains lycéens se sont ainsi retrouvés 400e sur une liste d'attente dont on leur indiquait qu'elle ne comportait que 200 membres.
Ah oui.
L'autre bug fut la conséquence de la suraffluence sur le site au moment du lancement et le ministère a été obligé de créer des sites supplémentaires pour rediriger des lycéens. Bref, c'est un sentiment de frustration, de froideur même face à cette machine qui est en plus paradoxal puisque le gouvernement souhaitait que Parcoursup remette de l'humain dans la procédure d'orientation.
Alors peut-être que l'humain, c'est que l'humain en question, l'étudiant, soit lui-même plus connecté. Rebonjour Guillaume Ouattara.
Rebonjour.
Vous êtes étudiant en informatique à l'UTC de Compiègne. Oui. Encore étudiant et cette semaine pourtant, vous êtes énormément intervenu dans les médias parce que vous avez lu et décortiqué l'algorithme de Parcoursup que vous êtes capable d'expliquer. Alors, enfin, en tout cas, beaucoup plus que la plupart des journalistes qui essayent de lire ces lignes de code. On a compris que ce qui changeait par rapport à PB, c'était déjà le fait que dans Parcoursup, on ne hiérarchise pas ses vœux. C'est ça qui crée des embouteillages, tous les vœux étant considérés comme le premier. Ce qui change aussi, c'est que le nouvel algorithme et les algorithmes locaux de Parcoursup demandent aux étudiants d'être beaucoup plus présents et de regarder, par exemple, tous les jours, s'ils n'ont pas encore de réponse positive, l'évolution de leur situation.
Oui, c'est ça. Les étudiants doivent se connecter absolument tous les jours. Ils peuvent recevoir à tout instant une notification qui leur indique s'ils sont pris ou pas dans une formation. Ils ont ensuite, pour l'instant, jusqu'au bac, un délai d'une semaine pour répondre. Ce qui est un peu inquiétant, je trouve, sur cette procédure qui est au fil de l'eau, c'est que c'est vraiment une charge mentale pour les étudiants. On parle beaucoup en entreprise du droit à la déconnexion, du droit de dire, après les horaires de bureau, j'arrête de consulter mon téléphone ou mes mails professionnels. Et là, on impose plus ou moins aux étudiants d'être constamment rattachés à cette plateforme Parcoursup, et ça peut durer jusqu'au mois de septembre, sans pause. Alors, il y a une petite pause au moment du bac, mais même pendant les vacances d'été, les délais vont se raccourcir, ils devront se connecter et répondre dans les 3 jours, sinon ils risquent de passer à côté de leur affectation. Donc c'est beaucoup de travail du côté des étudiants, des lycéens.
Est-ce que Parcoursup est plus transparent que l'était APB, dont on a mis beaucoup de temps à connaître le code? Et est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a aussi des algorithmes locaux, on a plus d'informations, Guillaume Attara?
Alors, ce qui était compliqué avec APB, c'était que pour les formations non sélectives, donc toutes les licences en fac, il y avait cet algorithme qui traitait les candidatures et qui venait classer les candidats sur des critères qui n'étaient pas connus. Et il a fallu beaucoup batailler pour que ces critères soient révélés. Là, Parcoursup, ce qu'il y a de transparent, c'est que ce sont les universités qui ont défini un certain nombre d'attendus et qui disent « on va vous trier sur tel critère ». Mais entre les attendus qui ont été proposés, donc par exemple, si on fait une licence de SVT, bah, aimer la biologie, et la manière donc concrètement ça va être traité, il y a un gap. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre dire si vous voulez nous rejoindre, il faut aimer la biologie, et le traitement concret qui est on va pondérer la moyenne de SVT, peut-être qu'on va la multiplier par 10 et la faire surreprésenter ou pas. Et tous ces critères en fait très techniques, la manière dont on a trié le candidat, ça c'est totalement inconnu. Donc il y a de la clarté initialement sur ces attendus, mais il y a beaucoup d'obscurité sur la manière dont ils sont traduits concrètement d'un point de vue informatique.
Guillaume Attara, est-ce que des universités classent des lycéens en fonction, par exemple, des résultats obtenus au bac par leur établissement?
Oui. C'est le cas. C'est le cas notamment à la fac de Descartes en médecine, qui trie les candidats en regardant vraiment le taux de réussite du lycée. Alors parmi d'autres critères qui ont été mis en avant, il y a la pénalisation dans certaines filières, pas toutes sur Parcoursup, d'étudiants qui auraient redoublé dans leur scolarité. Et il y a aussi la question du traitement des étudiants en réorientation, parce qu'on sait, on sait pas vraiment si ces étudiants qui ont déjà un an dans le supérieur sont pénalisés ou sont avantagés, ça dépend vraiment des filières. Mais en fait, il y a une liberté totale qui est laissée à la fois aux établissements sélectifs, mais qui eux ont l'expérience du traitement depuis des années, mais aussi aux filières qui étaient non sélectives auparavant, donc les universités, et qui là ont dû improviser très rapidement des critères de tri, parfois dans la précipitation. Et il y a à la fois le côté très technique où ils utilisent notamment l'outil d'aide à la décision, mais il y a aussi un côté très manuel, et dans les témoignages de profs, il y en a qui racontent qu'en commission, ils ont simplement les dossiers qui sont imprimés, ils font des tas, ils font des listes, ils vont prendre des critères parfois, voilà, dire par exemple, on va essayer d'augmenter le nombre de filles qu'il y a dans notre formation, ça a pu être localement des critères qui ont été utilisés. Donc il y a cette part de subjectivité, l'humain au cœur de la procédure, mais qui opacie un petit peu la manière dont c'est fait.
Ou opacifie, ça pose aussi la question, Guillaume Attara, de la culture numérique.
Bah, c'est vrai qu'il y a quand même le fait de savoir parler ce langage informatique, c'est un atout, notamment dans cette procédure Parcoursup, parce que il y a des algorithmes et du code source. Donc l'algorithme, c'est les critères mathématiques qui vont être mis en place pour trier, et le code source, c'est la traduction dans un langage précis informatique de ces algorithmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et on s'en rend compte avec Parcoursup, mais c'est un constat plus général, on est dans une société où on a deux types de personnes face au numérique. On a les consommateurs du numérique, qui ont voilà le smartphone, la tablette, qui comprennent pas vraiment comment tout fonctionne et qui l'utilisent. Et on a derrière les producteurs de numérique qui ont cette double vision, c'est-à-dire à la fois de consommateurs mais aussi d'acteurs, être capable de comprendre ce qui se passe derrière les algorithmes et derrière les systèmes numériques.
Est-ce que pour vous, Guillaume Attara, il y a un enjeu éducatif et même un enjeu démocratique?
Je pense. Effectivement, aujourd'hui, on est tous égaux face au code de la loi, mais on n'est pas tous égaux face au code source. Or, on est dans une société où de plus en plus les algorithmes vont prendre le contrôle. Ça va être, par exemple, pour calculer nos impôts, ça va arriver. C'est les algorithmes qu'on a aujourd'hui sur tous les systèmes qu'on utilise, par exemple de recommandations sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'achat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un enjeu peut-être de démocratiser, de donner cette culture du numérique. Finalement, pas de former une génération de codeurs, mais simplement une génération peut-être de décodeurs, de personnes qui sont pas forcément capables de construire des systèmes informatiques complexes, mais qui, mis face à ces systèmes, sont capables de comprendre comment ils sont faits. Et il y a quelque chose qui est très simple et qui est représenté là dans ce qu'a fait le ministère, c'est-à-dire que il a fourni à la fois les fichiers informatiques dans des langages, donc il y a du JavaScript, il y a du PSSQL, donc ça fait un peu peur quand on le lit comme ça, mais ils ont aussi fourni, et ça c'est un effort qui est très intéressant, des codes sources en langage naturel, c'est-à-dire en français de tous les jours, avec des instructions simples, si il se passe ci, alors cela, et ça, c'est franchement, ça demande juste d'avoir cette logique informatique, cette culture numérique, mais ça demande pas de savoir coder forcément pour comprendre, et peut-être qu'il y a là quelque chose qu'il faudrait réfléchir, cette généralisation de l'apprentissage de ce langage naturel, et quand on parle de rendre disponibles les codes sources, ce qui est très bien, c'est de rendre disponible à la fois le fonctionnement technique, comment c'est mis, le JavaScript, mais aussi tous ces langages naturels qui nous permettent de comprendre la philosophie de l'algorithme et pas seulement son implémentation technique.
Merci beaucoup Guillaume Ouattara. On n'a pas fini de parler des algorithmes dans notre vie, dans l'éducation et dans les apprentissages. Vous écoutez Rue des Écoles sur France Culture. Nous parlons du cerveau des enfants, des neurosciences et de l'engouement qu'elles provoquent aujourd'hui. Nous en parlons avec Olivier Houdet qui publie L'école du cerveau de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives. J'ai parlé dans l'introduction de la notion d'intelligence. Cette intelligence, la manière dont on considère l'intelligence et sa place dans le développement de l'enfant évolue avec le temps, Olivier Houdet.
Oui, d'abord, il faut dire qu'on est tous intelligents. On a chacun notre façon d'être intelligent et pour cela, on a un potentiel extraordinaire qui est le cerveau. On explique maintenant aux enfants et les adultes aussi l'apprennent en général qu'il y a dans le cerveau de chacun entre 86 et 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions. Dans le cerveau de chacun d'entre nous, le réseau est plus complexe qu'Internet dans le monde. Donc ça vous donne déjà notre potentiel d'intelligence. Et il y a aussi dans notre cerveau des algorithmes cognitifs. Et nos algorithmes, c'est de la logique, du si alors, ce qu'on a toujours appelé l'intelligence logico-mathématique. Il y a aujourd'hui cette révolution du numérique, c'est vrai, mais le cerveau humain en fait inventer les algorithmes déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, à Babylone, pour les règles d'organisation de la cité, il y avait déjà des applications du « si alors » pour creuser une tranchée, pour calculer le salaire d'un ouvrier. Ensuite, Aristote a formalisé cela avec les syllogismes. Mais le logo d'Aristote, ce sont des algorithmes. René Descartes a simplifié à la Renaissance les algorithmes d'Aristote par la méthode qu'on a tous appris au lycée, les règles pour la direction de l'esprit. Simplement, aujourd'hui, ces algorithmes sont codés sur des ordinateurs. Et ce qu'on découvre en plus, c'est qu'il y a donc, depuis très longtemps, des algorithmes dans notre cerveau. Le problème est qu'il y a aussi dans notre cerveau des émotions, des automatismes, ce que j'appelle des heuristiques, c'est-à-dire une forme d'intelligence beaucoup plus rapide, très rapide, mais qui, elle, n'est pas du tout algorithmique au sens exact du terme. Dès lors, votre question sur qu'est-ce que c'est l'intelligence, pour moi, l'intelligence, ça va vous surprendre, c'est l'inhibition. C'est la capacité qu'on a à inhiber nos automatismes, nos heuristiques trop rapides, pour pouvoir précisément activer des algorithmes plus rationnels. Et cette inhibition, elle est le cœur du processus qui est dans le cortex préfrontal à l'avant du cerveau, qui se développe très lentement, comme c'était dit dans un extrait du film tout à l'heure sur le cerveau des enfants. Si vous allez, vous, dans un supermarché et que
ça
vous...
m'arrive.
Et que vous voyez deux types, deux alignements, ce qu'on appelle d'ailleurs des linéaires, avec des produits égaux, mais en alignement différent. Si un rayon est beaucoup plus long que l'autre, vous inférez immédiatement, très rapidement, dans votre cerveau, en quelques dizaines de millisecondes, que longueur est égale à nombre, qu'il en reste plus là où c'est plus long. C'est une heuristique. Mais si vous présentez un jeune enfant sur une table, en école maternelle, sept jetons écartés, et en dessous, 7 jetons resserrés, et que vous lui dites est-ce qu'il y a ou non le même nombre de jetons, l'algorithme, c'est de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 égale 7. Donc, oui, il y en a pareil. Mais jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, les enfants disent ah ben non, il n'y en a pas pareil. Tu vois bien, il y en a plus là parce que c'est plus long. Ça, c'est une heuristique. Et toute notre vie, ensuite, dans le domaine du raisonnement, par exemple, nous sommes, nous aussi, adultes, court-circuités par nos heuristiques. Ce sont les fake news. Ce sont les pseudo-déductions. Ce sont tous nos automatismes de pensée.
Et ça marche aussi avec les fautes d'orthographe.
Les fautes d'orthographe. Je les mange. beaucoup d'enfants, les profs nous ont dit, justement dans nos recherches participatives sur la plateforme numérique, les enfants ont surappris qu'après les, je mets un S. C'est une heuristique, ça marche très souvent, mais pas toujours. L'algorithme est la règle plus réfléchie, plus lente, qui demande un effort cognitif de l'accord avec le sujet, et que souvent les enfants connaissent parfaitement. Et ce système d'arbitrage, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, mais là j'en donne, j'espère, un contenu, apprendre à apprendre, la métacognition, être capable de finalement nous inhiber nous-mêmes, d'inhiber notre cerveau quand il va trop vite, ce qu'on a toujours appelé la prise de recul, l'esprit critique. Mais c'est au cœur de ce qu'il faut apprendre, et ça c'est pas dans les réformes actuelles, c'est pas dans les programmes scolaires. Et nous, nous démontrons avec mon laboratoire du CNRS que dans la lecture, les lettres en miroir par exemple, qui sont aussi des heuristiques.
Alors les lettres en miroir, j'explique, un petit B, un petit D, un petit Q et un petit P en script, ben c'est la même lettre retournée de manière différente.
Voilà, et l'enfant très souvent les confond à l'école. C'est une erreur que les inspecteurs appellent, ou les profs, génériques. L'enfant confond le B et le P, le B et le D, et le P et le Q. Dessinez-le, les auditeurs, sur une feuille, vous verrez très bien, B, D, P, Q. On peut les confondre, elles sont en miroir. Mais si je vois Louise Tourret arriver dans le studio par la gauche ou par la droite, immédiatement, une heuristique dans mon cerveau, qu'on appelle l'heuristique de généralisation en miroir, infère que c'est la même personne. On infère l'identité. Mais ça marche pas pour les lettres en miroir. Selon leur orientation latérale, elles sont différentes. Et l'algorithme, je vous pose une petite question. Dans ce cas, l'algorithme, c'est quoi? Vous, l'étudiant en informatique.
Guillaume Ouattara,
c'est une belle colle.
C'est l'alphabet. Ah. L'algorithme, c'est l'alphabet que les enfants apprennent à l'école. Sur le mur de la classe, au-dessus du tableau, vous avez l'abécédaire, ou qu'on avait jadis dans des images d'Opinal. De A à Z, si vous déclinez dans votre cerveau les 26 lettres, vous ne confondez pas le B et le D, ou le P et le Q. Néanmoins, le cerveau le confond parce qu'une heuristique très rapide fait qu'en général, tous les objets qui nous entourent, s'ils ont une orientation miroir différente, c'est toujours le même objet. Et donc, être intelligent là, c'est inhiber cette heuristique de façon très précise quand on est confronté à des lettres en miroir où l'algorithme est démuni face à cette heuristique dans le cerveau.
Olivier
et
Oudet,
pour lire, écrire, compter, penser, raisonner et même respecter autrui. Il faut inhiber l'heuristique égocentré pour activer l'allocentrisme, être capable de calculer, de considérer le point de vue d'autrui. Et là, on retrouve le social et
parfois,
les émotions.
Et parfois, il y a pas mal de travail aussi à ce
chez
niveau-là.
Les adultes aussi.
Olivier Oudet, et cette manière de considérer comment l'intelligence des enfants doit être mobilisée en classe, vous avez utilisé cette expression, apprendre à apprendre, elle est ancienne, on le sait tous, il y a aussi des différences de conception de cette mobilisation de l'intelligence. Pour certains, et c'est aussi une conception historique, l'école, c'est un endroit où on copie, où on ingère ce qu'on nous transmet. Et ensuite, après, on peut devenir intelligent parce qu'on a appris.
Et là, je vous dis le contraire, en fait.
Oui, j'ai bien compris que vous me disiez le contraire, mais c'est sur ces conceptions assez variées que je vous interroge.
Pas du tout, il ne faut pas construire des automatismes, des heuristiques. Bien sûr, il en faut, puisqu'elles sont très efficaces, très rapides, et qu'elles fonctionnent très souvent. Et dans le monde très rapide d'aujourd'hui, en effet, nous devons avoir des heuristiques. Et l'école apprend beaucoup d'heuristiques, consciemment ou inconsciemment. Après les, je mets un plus. Le but du professeur n'est pas de créer des erreurs chez l'élève. Néanmoins, c'est ce qui fera qu'il mettra un S à manche dans je les mange. Longueur égale nombre, dans les livres de maths pour petits ou sur les murs des écoles maternelles, vous avez la suite des nombres de 1 à 10, vous imaginez, dessinés verticalement, et à côté, une girafe. 1, 2, 2 hippopotames, 3, 3 crocodiles. Explicitement, on apprend aux petits la suite des nombres de 1 à 10, donc un algorithme, mais implicitement, son cerveau, qui est statisticien, détecteur de régularité, détecte que la longueur est égale au nombre.
Pourquoi n'avez-vous pas voulu participer au Conseil scientifique de l'Éducation nationale ?
Non pas parce que je n'ai pas de passion pour les neurosciences, vous venez de l'entendre, non pas parce que je ne suis pas très lié à l'éducation puisque je suis instituteur de formation initiale, non pas parce que ce n'est pas mon domaine scientifique, parce que nous avons été avec mon laboratoire les premiers en France à explorer en imagerie cérébrale le cerveau des enfants en partenariat avec des écoles. La première publication, c'est l'antériorité scientifique, était en 2011, simplement parce que je crois que c'est un enjeu tellement important qu'il faut plutôt faire de la recherche participative. Le ministre a raison en disant qu'il faut s'intéresser au cerveau aux neurosciences, mais pour moi, ça ne doit pas être top-down, ça ne doit pas être trop brutal à l'égard des professeurs, et il faut surtout qu'on leur apprenne des choses avec les neurosciences qu'ils ne connaissent pas encore, et il faut une réciprocité, un respect mutuel entre le monde de l'éducation et le monde de la science, et ça, c'est très subtil, ça ne se décrète pas, et il faut éviter de gâcher la porte possible des neurosciences à l'école en faisant, disons, les choses trop brutalement.
Ce sera le mot de la fin, Olivier Houdet. On passe tout de suite à la dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses. Avec la romancière Christine Montalbetti, tendez l'oreille, c'est moche le terme bon élève, la romancière revient sur son enfance.
C'est vrai que je me suis mise à écrire tout de suite. Dès que j'ai su écrire, je me suis mise à écrire. Donc j'ai encore des textes que j'ai écrits quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans, des petits contes dont le plus long devait faire une demi-page. C'était vraiment des toutes petites choses. Cette idée-là d'être écrivain, ce fantasme-là, c'était pas seulement les moments d'écriture, mais c'était aussi le rapport au monde. Et je me revois, petite fille, alors là peut-être un peu plus âgée, peut-être à 10 ans, 11 ans, marcher dans la rue avec mon manteau grand ouvert et avoir la sensation que ça, cette liberté de marcher avec le manteau ouvert, de marcher seule aussi à 10 ans, ça avait à voir avec mon désir d'écrire, avec cette aspiration-là à être écrivain.
Et est-ce que vous aimiez vous rendre à l'école?
Je me souviens que la première fois a été très douloureuse. Je ne suis pas arrivée le premier jour, je suis arrivée le deuxième ou troisième jour de la rentrée. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être que la directrice voulait me présenter à la classe, mais c'est elle qui m'a fait monter les marches alors que tout le monde était déjà dans la salle. Et j'étais absolument en larmes. Et ça a été ma première expérience de l'injustice, parce qu'elle m'a dit que si j'arrêtais de pleurer, elle me donnerait une image. Et j'attends toujours l'image. Après, pour moi, l'école, c'était... J'ai pas de nostalgie de l'enfance. Pour moi, l'enfance, c'était un temps contraint. Un temps dans lequel on avait très peu de marge de liberté, très peu d'initiative. Et donc, j'avais pas moins d'initiative à l'école qu'en dehors de l'école. J'étais pas du tout maître de mon emploi du temps, de mes déplacements. Je parle vraiment de l'enfance de 5 à 10 ans. Et donc, l'école n'était pas un cadre plus contraignant pour moi que le reste. Tout était contraint.
Mais est-ce que vous étiez une bonne élève, Christine Montalbetti?
C'est moche le mot « bonne élève ». Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas un terme qui me plaît beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'étais jamais grondée quand j'avais des mauvaises notes. Donc je crois que j'avais un rapport très souple à ça. Alors, j'ai vraiment pas du tout de souvenir à la petite école des mauvaises notes ou des bonnes notes. Mais en revanche, au collège, dans les matières littéraires, oui, j'avais des bonnes notes, mais je détestais apprendre par cœur. Donc, par exemple, s'il y avait des interrogations sur le vocabulaire, ou sur... Là, je pouvais avoir 3 sur 20, et puis voilà, s'il y avait une...
En latin.
En latin, voilà. Et puis s'il y avait en revanche une rédaction à faire, là, oui, j'étais heureuse dans ce moment d'écriture. Je crois que les études littéraires, c'était ce qu'il y avait de plus évident pour moi, de plus simple. Et aussi, c'était exactement là où je n'avais rien à apprendre par cœur, justement. Pour moi, c'était un espace assez libre, un espace d'une relative paresse, justement, parce qu'il n'y avait rien à apprendre. Et je pense que la paresse, je sais que ça terrifiait ma mère qui trouvait que j'étais une enfant paresseuse. Elle me l'a dit plus tard. Mais pour moi, la paresse, c'est vraiment c'est une chose aussi précieuse. C'est le temps de la contemplation. C'est le temps d'une inaction, mais qui n'est pas un vide, qui est une façon aussi de se laisser remplir tout simplement par les instants.
Et Christine Montalbetti vient de publier Trouville Casino, c'est chez POL. N'oubliez pas que Rue des Écoles, c'est une émission de radio et un podcast pour nous retrouver quand et où vous voulez. La semaine prochaine, nous parlerons d'une passionnante et dérangeante exposition qui se tient actuellement au Quai Branly à Paris, le magasin des petits explorateurs. Le sujet, la manière dont la culture populaire a présenté et présente les sociétés d'ailleurs aux plus jeunes. Je remercie toute l'équipe de Rue des Écoles Somadina. Élise Le à la prise de son aujourd'hui et Marie Dalquier, notre attachée d'émission. Bonne soirée à toute l'équipe et à tous sur France Culture.